alors que nous parlerons des niveaux inférieurs après le Tzimtzoum, c'est le niveau supérieur des mondes eux-mêmes, qui entoure et unifie les mondes eux-mêmes. Avant le Tzimtzoum, cette lumière s'appelle Or Ensof Pashut. Après le Tzimtzoum, elle s'appelle Or Elyon Pashut, parce qu'elle devient Elyon par rapport à Tartonim. C'est clair? Bon, encore une fois, vous voyez que la précision du langage est très simple. C'est bien clair? Et alors, avant d'aller plus loin, nous verrons que le Tzimtzoum opère au centre de cette sphère qui va apparaître dans son processus même, qui est appelée dans notre texte la Nekuda Emtsait, le point central, mamash, vraiment, vers l'extérieur d'une sphère qui se constitue. C'est un mouvement de rétractation, premier sens du mot Tzimtzoum. Et le Tzimtzoum opère au centre vraiment, et de moins en moins vers la périphérie. Et c'est pourquoi le résultat de haut en bas, de la périphérie au centre, c'est Or Elyon Pashut, Metziut, Makom Panui, Avir et Kani, mais le halal est vraiment halal en son centre, qui s'appelle halal. Alors vous avez vu que votre phrase est maintenant très simple. Il me reste une précision de langage à expliquer, que je vais expliquer dans le paragraphe suivant, mais reprenez le texte. Vous êtes à la page Bet, troisième mot, quatrième mot. Et là, Raya Hakol, mais tout était, mais moulé, empli, min Orenson Pashutaou, de cette lumière supérieure sainte dont nous parlons, Veloraya, et il n'y avait à lui, à cette lumière, vous vous rappelez les lumières d'eau masculines, à cette lumière supérieure Pashut, et il n'y avait l'Obechina Roche et l'Obechina Tsof, avant tout cela, il n'y avait ni en haut ni en bas, ni commencement ni fin, ni principe et conséquence, ni périphérie et centre, ni ce qu'on appellera finalement, dans toutes ces bechinotes, point de vue, roche, commencement, sauf fin. Et là, Hakol Haya, mais tout était, O Echad Pashut, une lumière, une, simple, simple, non complexe, Shaveh Vehashvah, égale à elle-même, homogène, en une unique égalité, Vehu Anikra Orenso. Mais c'est cela qui est appelé la lumière du Orenso. Voilà, oui, c'est simple. C'est clair? Quelle est la précision de langage qui nous reste? C'est que dans la deuxième formule, nous avions. Ah non, vous voyez, c'est un peu plus loin, donc je peux le laisser en suspens. À la place de Avir et Kani Vechalal, nous allons avoir Avir, Vechalal, Rekani plus loin, mais ça je verrai après. Bien. Alors si ça va jusque-là, je reprends tout simplement la définition du. La première définition de Tzimtzoum, rétractation. Et la notion de Nekuda Emtsait, point central, et la notion de Halal. Après, nous verrons les autres notions. Alors, le premier postulat qui nous apparaît, c'est que l'axiome du discours de la Kabbalah, c'est que l'être précède le néant. Plus encore, que l'être précède l'existant. La différence entre l'existant et l'être, c'est que l'existant est mélangé de néant, puisqu'il est l'être dans le néant. Or, il est bien évident qu'il y a des niveaux. Dans l'existant, il y a des niveaux de néant et des niveaux d'être différents. C'est tous ces niveaux qu'on a éliminés. C'est pas plus compliqué. Et première notion, donc, la Havaya, l'être absolu, précède le néant. Et ça sera l'objet de l'exposé que je vais vous faire hier soir, mais je referai lundi soir un peu plus contracté, si j'ose dire. C'est que, pour comprendre la notion d'exister à partir de néant, il fallait d'abord comprendre la notion de néant à partir de l'être. Or, cette capacité de l'être absolu, de faire apparaître ce vide où les mondes seront logés, et premièrement, pour le discours de la Kabbalah, et nous reprendrons cela en fin de séminaire à la dernière conférence, un acte moral. Ça veut dire réprimer son propre être pour laisser place à autre que soi qui vient de soi. Est-ce que c'est clair? Bon. C'est bien ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi je conclurai sur cette analyse de la Kabbalah comme religion. Et en quoi le judaïsme comme religion est fondé sur cette notion de création qui fonde la morale. J'ai là la limite. Je sais très bien que l'histoire, depuis le premier homme étant ce qu'elle est, vous pouvez trouver énormément d'hommes qui sont des conscience morale et qui sont rebelles à la notion de création. C'est parce qu'ils ne savent pas que les principes qu'ils adoptent comme conséquence d'une histoire spirituelle sont les conséquences d'un principe. Est-ce que c'est clair? Et ça veut dire que ça n'a aucune importance que ne fasse pas le lien entre ces deux notions. Historiquement, réellement, et en tout cas, c'est cela le judaïsme, c'est ainsi que cela commence. Je vous donne une indication qui est très importante, il me semble, c'est Abraham, qui dans le même mouvement de foi fonde et la reconnaissance de la notion de créateur et la conscience morale. Est-ce que c'est clair? Bon, attends, je referme la parenthèse. Lorsque nous parlons d'Abraham, il ne faut pas perdre ces deux notions à la fois. Il y en a encore d'autres, mais ces deux notions à la fois, qui est qu'Abraham se connaît comme créature, connaît la notion de création de façon absolue, alors il a pu fonder l'exigence de la conscience morale. Et cela apparaît au niveau d'une modalité d'être qui est une vertu particulière pour elle-même, une des sphérotes qui s'appelle Chesed. Vous la situez dans l'ensemble des sphérotes, que je vais décrire de la manière suivante. L'expérience de Chesed consiste à se référer à ce fait que le monde existe par Chesed. C'est la notion de création elle-même qui se dévoile à ce niveau-là. Les Chesed, c'est le fait de donner être à autrui de façon gratuite. Et il y a un verset très clair qui l'indique. Olam, Chesed, Ibané. Le monde sera construit sur le Chesed. Vous chercherez vous-même ce verset. Vous avez des concordances pour trouver les correspondances des versets? Bon, je ne suis pas chargé des intérêts des librairies, mais ça se trouve en librairie. Okay. Vous achetez une concordantia, comme on dit, et vous cherchez où se trouve le mot Chesed, dans quel verset, vous trouverez ce verset des psaumes, en l'âme, Chesed, Ibbani. C'est tout un problème. Hein. Mais c'est la même Mida, c'est un tout un problème. Bien. Alors, je reviens maintenant à... Quelle
question. Donc, Chesed, c'est la morale elle-même.
Le commencement de la morale. Il y a d'autres vertus pour que la morale soit fondée. Mais le commencement, dans l'ordre des valeurs, c'est Chesed. Si Chesed est seul et s'arrête là, elle devient dévastatrice. Puisque Chesed permettra l'existence de n'importe quel monde dévoyé. Puisque le don gratuit est don gratuit, a priori, pour tout, pour n'importe quoi. Donc si Chesed n'est pas corrigé en complémentarité par d'autres valeurs dont nous parlerons par la suite, alors vous avez les raisons profondes de l'échec de ces grands courants traditionnels qui n'ont retenu des valeurs que Chesed. Et c'est en particulier votre discussion sur Sodome et Gomorrhe. Abraham est le tzadik de Chesed et que Chesed, qui protège-t-il? Les plus grands rechaïm, je ne sais pas comment traduire ça en français, les plus grands méchants qu'il y a dans le récit biblique, les méchants de Sodome et de Gomorrhe. C'est pire que mécréant. Mécréant, c'est une notion théologique, une notion de foi, mais méchant, c'est une notion morale. Hein? Et Dieu patiemment lui explique que Chesed seul, c'est pas possible. Vous voyez comment on lit ce texte à l'envers. C'est clair, top. Alors je reprends donc cette analyse, cette fois en focalisant sur la notion de Nekuda Emtsait, pourquoi cet acte de Tzimtzum s'opère là. Introduction, c'est, je viens de dire que l'acte de Tzimtzum est essentiellement un comportement moral. Vous vous rappelez? Or, et qui s'appelle, du point de vue de l'évaluation des valeurs morales, qui s'appelle Gevura. C'est un acte de Gevura. Comment ça veut dire ça, Gevura? Bon, c'est vaillance, force, mais tout de suite, il faudra employer un terme qui implique aussi vaillance et force morale. Je vais commencer par le décret. Nous avons une Mishnah dans le Pirkei Avot qui est très importante parce qu'elle nous explique un des attributs de Dieu comme créateur et comme provident de l'histoire du monde, qui est le mot de Gibor. Lorsque nous disons à Dieu, Ata Gibor. Ata Gibor, le Olam. Tu es le vaillant pour le monde. Tu es vaillant dans le monde. Bon, ça fait partie d'un problème de théologie générale. Est-ce qu'il y a un sens d'attribuer de façon positive des attributs de valeur à l'absolu? Est-ce qu'il n'y a pas là une impertinence blasphématoire? Qu'est-ce que ça veut dire de dire au Tout-Puissant qu'il est puissant? Est-ce que c'est vraiment une louange? Est-ce que vous comprenez ce que vous explique d'ailleurs la position de Maïmonide, qui refuse, c'est le théologien qui est là le plus systématique, qui refuse ce qu'on appelle les attributs positifs et qui ne retient que le sens des attributs négatifs. J'explique. En ce sens que pour Maïmonide, dire à Dieu « tu es grand », ça n'a pas de sens positivement, parce qu'il est toujours plus grand qu'eux, mais ça veut dire qu'il n'est pas petit. Et même négatif. Hein. Et Maïmonide insiste beaucoup là-dessus, en laissant recouvert le fait qu'il y a la même difficulté. En disant de Dieu qu'il n'est pas petit, est-ce qu'il n'y a pas là une coquetterie blasphématoire. Je vous dirai comment les kabbalistes postérieurs ont expliqué cette position de Maïmonide. Maïmonide a beaucoup lutté contre l'idolâtrie. Et je crois que c'est celui qui connaissait le mieux l'idolâtrie de son temps. C'est la raison pour laquelle le guide des égarés est difficilement utilisable par les modernes, pas seulement dans le recherche culturelle, mais dans les autres aussi, parce qu'il faut maîtriser la culture du temps de Maïmonide. Et que les modernes sont incapables de comprendre ce qu'il pouvait y avoir dans le comportement religieux des païens dont lui parle, et dans les idolâtries qu'il décrit. Et c'est une petite parenthèse, c'est pas pour les cassettes. L'année dernière, il y a eu la même Maïmonide. Et on m'a demandé plusieurs conférences, ça m'a obligé de relire tout Maïmonide. Et je me suis rendu compte une fois de plus à quel point un moderne ne peut pas utiliser l'enseignement de Maïmonide dans son contenu, mais dans sa méthode. Je crois que si Maïmonide était présent parmi nous, il nous dirait « Faites ce que j'ai fait, mais pas comme je l'ai fait. Faites-le dans votre contexte culturel. » Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Et, en tout cas, je reviens à ce problème, le fondement du sentiment ou d'intuition polythéiste païenne, c'est la contradiction des valeurs. Et donc chaque valeur a son dieu et ils sont en guerre. Bon. L'Olympe, la guerre des dieux, enfin vous connaissez tous ces thèmes-là, mais c'est le paganisme lui-même. Et Maïmonide semble nous indiquer ceci. Si vous retenez la définition positive des absolus, des valeurs, vous ne pouvez pas éviter leur contradiction. Alors il est préférable de les définir négativement pour annuler leur contradiction dans l'infini négatif. Clair ce sujet-là. Mais en fin de compte, à la racine même de la notion d'infini, il rejoint les kabbalistes. Mais qui, eux, s'en tiennent de façon catégorique à l'affirmation du caractère positif des absolus. Maïmonide avait affaire à un contexte culturel où philosophiquement, on n'arrivait pas à surmonter cette notion de contradiction des absolus individuels, individualité, dans l'infini global. Les kabbalistes n'avaient pas affaire à ce problème. Et donc préférer préserver l'essentiel du message de la Bible que les valeurs qu'on appelle les attributs du Dieu 1 sont positives. Et à condition de comprendre le sens des mots. Par exemple, dans le vocabulaire kabbaliste, lorsqu'on dit que Dieu est grand, ça veut dire précisément qu'il est capable de s'occuper de plus petit que lui. Et la notion de Gedula, la grandeur, dans le vocabulaire kabbaliste, ça s'appelle chesed. Vous avez différents versets où à la place du mot chesed, il y a le mot gdoula, grandeur. Un verset qu'on dit à la prière du matin, vous l'avez en tête, lecha Hashem ha agdoula, vea gdoula, vatifet, oui. Qu'à la place de chesed, il y a gdoula. Et donc, encore une fois, vous voyez la difficulté de vouloir parler la Bible en grec au lieu de la parler en hébreu. Ça fait apparaître des problèmes insolubles. Parce qu'en hébreu, ça a un sens positif, être grand. C'est quoi être grand? C'est s'occuper de plus petit que soi. Et pas être plus grand que plus petit que soi. Là, il y aurait le problème philosophique. Vous avez compris ça? Alors, je reviens précisément au. C'est enseigné en particulier par le Midrash Rabba, c'est repris dans beaucoup d'écoles moralistes juives, même contemporaines, comme un enseignement central, lorsque le verset dit à propos de Moïse qu'il grandit et il alla vers ses frères. Ce n'est pas une information que lorsqu'il grandit, il alla vers ses frères, c'est pour nous enseigner ce que c'est que la grandeur, c'est d'aller vers ses frères, tout simplement. Ça, c'est le Midrash. Et c'est d'ailleurs une leçon qui pourrait être, utilisée par la communauté juive en diaspora, d'aller vers ses frères, là où ils sont, chez eux. En tout cas, comme on va dire, du coup. En tout cas, je reviens au problème. Rappelez-moi le principe juste avant la parenthèse d'Exilès.
On a dit de
Chesed
et
Agdoula.
Justement,
le Pirkei Avot.
Ah oui, Gabor. Alors, la Mishnah du Pirkei Avot dit Ezehu Gibor, de qui peut-on dire qu'il est Gibor, vaillant, fort dans ce sens que nous cherchons de force morale, c'est « akovesh etitzro », celui qui maîtrise ses penchants. Bon. Et il y a d'autres mishnayot qui définissent la gevura autrement, à d'autres niveaux du problème de la moralité. Alors, si nous rapportons la Mishnah à l'intitulé liturgique lui-même, où nous disons de Dieu dans l'invocation de la prière qu'il est gibor, qu'est-ce que ça voudrait dire que la gevura de Dieu, comme créateur pour notre sujet, c'est qu'il est kovesh et titzro? La réponse est très simple. C'est que si nous comprenons que la Havaya, l'être absolu, est absolu, par rapport à qui que ce soit, quoi que ce soit d'autre, il y a un yetzer de la Havaya d'expansion totale. La tendance de la Havaya, c'est d'occuper tout. C'est vrai ? L'être absolu occupe tout. Donc il n'y a pas de place pour le monde. Et pour pouvoir créer le monde, il faut aménager une place. Et donc être kovesh de ce yetzer d'expansion totale, ce qui s'appelle, dans le langage des kabbalistes, le tzimtzum. Vous avez compris ? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le tzimtzum ? C'est ce geste qui consiste à me réprimer pour laisser place à autrui. Au niveau de la notion de création, c'est que l'être absolu se vide de lui-même en un point de lui-même pour laisser le makom panoui, la place disponible pour y loger les mondes. C'est clair ? Mais ce qu'on a appris d'important en termes hébreux, c'est que c'est un acte moral. Ou plus exactement, que la finalité de ce mécanisme qui s'appelle tzimtzum, le mécanisme n'est pas joli, mais vous comprenez le sens.
Processus.
Le processus qui s'appelle tzimtzum, cette finalité est morale. C'est en vue qu'autre existe, c'est-à-dire le monde pour Dieu. Voilà, pas plus compliqué.
C'est l'abnégation, l'étymologie.
Oui, expliquez l'étymologie. Abnégation.
Abnégation se divise en deux.
Oui.
Deux. Et négation, c'est
une. Oh, c'est joli. C'est très joli, ça j'achète.
Mais justement, par contre,
oui.
Je ne vois pas le rapport entre le tzimtzum et la gevura.
Oui. Eh bien, ce processus de tzimtzum demande une force considérable. Pourquoi ? Gevura, force, voyante. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas à lutter contre quelqu'un d'autre qui, par définition, serait plus faible. On a à lutter contre sa propre force, ce qui est avoir à dépasser une impossibilité. D'ailleurs, c'est ce que dit la Mishnah, Eze Ulibor, a Kovesh et Titro, à lui, pas le Loketeir, comme dit le verset qui est cité par la Mishnah, celui qui conquiert une ville, c'est pas lui un héros vaillant. Pourquoi ? Parce qu'il s'avère que la ville était donc moins forte que lui. Et on ne peut pas vaincre plus fort que soi, on ne peut pas vaincre moins fort que soi, ce n'est pas vaillance, donc il s'agit de se vaincre soi-même. Alors, on est là devant quelque chose qui nous dépasse, c'est une impossibilité dépassée. Être plus fort que soi, que soi-même, c'est ça la véritable vaillance. Alors on le retrouve dans le problème moral, lorsqu'on est capable de maîtriser ses propres penchants. Vous comprenez, ce qui nous gêne dans la morale occidentale, c'est qu'on dénonce les défauts que chez autrui. Vous avez compris le jeu, okay ? De la même manière, nous avons une phrase du Talmud, et chaque fois que j'écoute des conférences, je prête attentivement l'oreille à cela. Tout le monde est en colère contre quelque chose. Mais le Talmud dit « Possel bemumo possel ». Celui qui disqualifie, se disqualifie. C'est-à-dire, en réalité, désigne ses propres défauts qu'il projette. C'est dangereux ce que je dis là, parce que c'est vrai. Bien. Et alors, quand une... D'ailleurs, tout ce qui est exagéré est suspect, ça vous le savez. Et quand une diatribe est exagérée, oulala, c'est à psychanalyser.
C'est... À propos de oui. Psychanalyse, en vous écoutant parler, je me demandais dans quelle mesure c'était l'héritage juif inconscient en lui de Freud qui avait fait qu'il avait donné la première place à une notion de frustration, de castration, etc. Où on retrouve. Mais enfin, c'est pas ça ma question.
Attendez, je réponds d'abord à celle-là. C'est que, il faudrait ajouter un terme, c'est un héritage juif assimilé. Il a toujours voulu à son père de ne lui avoir pas transmis le judaïsme qui lui manquait. Okay. Mais continuez.
C'est à propos justement de la notion de Gevura. Si vous essayez de faire comprendre à quelqu'un, nous tous, non, que Dieu a aussi créé le mal, c'est impossible et ça ne passe plus.
Conférence du mardi soir.
Et on en arrive à cette position athée tellement courante qui consiste à dire de Dieu, le salaud, il n'existe pas.
Oui. Et,
qui a dit ça, c'est très vert. Je ne sais pas qui dit ça, mais enfin c'est très courant. Alors, c'est une question, je crois, d'esclavage du langage, dans la mesure où, si vous essayez de faire comprendre à quelqu'un que Dieu est non seulement supérieur à tous les contenus qu'on lui donne, mais qu'il est radicalement autre chose, alors à ce moment-là, on n'est plus compris, et il semble qu'au niveau du langage, la Chesed et la Geboura soient tellement contradictoires que le résultat, c'est une négativité absolue.
Absolument. Mais il faut ajouter, j'y arriverai, radicalement autre, mais existant et pas seulement étant. La dimension de l'immanence à laquelle on y arrivera. Et existant comment? C'est ça le fond du problème. C'est-à-dire que beaucoup de croyants n'arrivent plus à diagnostiquer cette présence cachée, où se manifeste-t-elle? Et c'est la raison pour laquelle on culbute dans ces difficultés que vous désignez. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que nous sommes dans la Olam du Khalal, au centre, hein. Certains ont une envergure qui leur permet d'avoir la tête dans les autres mondes. Mais le monde objectif dans lequel tous sont à la fois, c'est celui où le tzimtzum est le plus fort, où ce qui est caché est le plus caché, où la présence est le plus absente, etc. Et pourquoi il y a un verset qui parle des sages comme Aene Aeda, les yeux de l'assemblée. Et une assemblée qui n'a plus de sages, qui aurait leur tête suffisamment haut pour voir, okay, c'est une assemblée désorientée. Vous avez compris le problème. Je crois que c'est un peu le stade de ce qu'on appelle en hébreu traditionnel Doriatom, les générations orphelines. Vous avez entendu cette expression, Doriatom, une génération orpheline. Mais nous avons énormément d'expressions qui s'opposent à cela, que Israël sait qu'il n'est pas orphelin. On a beau nous répéter, il est mort, il est mort, non, il n'est pas mort. Am Israël Haïve Kayam, vous comprenez? Je reviens, je pensais à la phrase de Nietzsche. Hein? Non, finalement, Sartre lui-même a reconnu qu'il s'était trompé. On revient donc à notre sujet. Okay, mais rapidement, si on est dans le sujet. Okay, parce que je voudrais, avant midi, terminer le premier point. Si on est loin.
Puisque Dieu s'occupe de son monde, est-ce que ça veut dire que la, c'est parce qu'il maintient cette force?
Quelle force?
La Geboura.
Je vais y arriver tout à l'heure. Ensuite, alors j'avance. Ça va nous permettre, si vous comprenez bien, de comprendre ceci. C'est que ce halal, qui est le vide, et il prend d'autres noms aux autres niveaux plus proches de la périphérie. C'est clair. Ce halal, qui est le vide absolu, condition de la possibilité de la création des mondes eux-mêmes, est impossible. Parce qu'il s'agissait d'une lumière simple qui ne supporte pas, en hébreu, la harkava, la complexité. Donc, dès que le tzimtzum se produit, il se détruit, parce que la quantité de lumière rejetée autour de la sphère revient avec force et détruit la sphère. C'est clair? C'est pourquoi le texte insiste sur ce mot pashut, simple, pour nous expliquer que ce n'est pas si simple. Vous comprenez le problème? Et donc, il y a, je vais tout de suite arriver à ta question, on profite, il y a une force qui joue dans cet alentour de cette sphère du halal, okay, à laquelle le récit de la Bible fait allusion en parlant du firmament, Rakia, qui empêche ce qui est en haut de descendre en bas. Parce que si ce qu'il y a en haut descend en bas, il détruit le vide d'en bas dont nous avons besoin pour être logés. C'est clair jusque-là?
Alors il y a comme un jeu de pression extérieure d'un côté et intérieure de l'autre.
Yeah, c'est ça la Geboura.
Pour avoir un équilibre.
C'est ça la Geboura. C'est une force permanente qui empêche cette pression de triompher, et alors qui lui oppose une pression inverse. Cela s'appelle, dans le vocabulaire de Shmotav, que nous verrons dans le troisième paragraphe, afin de dévoiler ses noms, les Shemot, les noms, ça s'appelle, dans le vocabulaire des Shemot, c'est un des tableaux que vous ajouterez si on y arrive, El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant. Et voilà que ça veut dire Dieu Tout-Puissant, qui fait qu'un monde peut exister en s'empêchant de le détruire. Ça va jusque-là.
C'est comme s'il mettait un manteau protecteur.
Au monde.
Au monde, oui.
Mais je préfère ne pas utiliser d'image, parce que n'importe quelle image nous ferait basculer dans une imagerie païenne. Okay. Et comme nous avons des textes aussi dans la Kabbalah qui parlent du manteau. Comme je, à ça je pensais quand je vous entendais, je prévais qu'on ne parle pas de ça. Et parce que les païens ont fait de ça des symboles dangereux. Symboles priés pour vous. Bon, je reviens au problème. Okay. C'est cette force s'appelle Gevura. Vous voyez pourquoi Tzimtzoum est appelé Gevura? C'est un acte de Gevura. C'est midi? Oui. Nous allons faire 10 minutes d'interruption et reprendre le problème de la Nekuda El Tzaït, c'est-à-dire du point intérieur que je
voulais. Il y a 54 ans, vous aviez fait sur aussi un séminaire sur les
Sirotes,
et vous aviez fait des cercles, et c'était très très clair avec les différents cercles.
Oui.
On visualisait bien la Gevura avec le cercle extérieur.
Moi,
je m'en souviens encore de cette image.
On la comprend pas. Entendu.
Alors,
il vous reste un point à analyser sur le vocabulaire de la phrase que nous sommes en train d'étudier. Et ensuite, le temps qu'il nous restera, si vous avez des questions d'éclaircissement, on les revient. Alors, nous étions arrivés donc à cette notion que, à partir du postulat de départ, que la Havaya, l'être absolu, précède tout, et que pour que les mondes soient créés, il est nécessaire de faire apparaître ce halal. Nous avons appris que le halal est vraiment halal en son centre. Et je repars donc de ce problème du centre qui s'appelle dans notre texte la Nekuda Emtsaït. Et souvent, vous avez dû remarquer, il y a l'adverbe mamash qui est ajouté, le point central vraiment. C'est-à-dire que ce mouvement, ce processus du Tzimtzum, que nous avons décrit tout à l'heure dans la catégorie de Gevura, dans sa première définition, mouvement qui va du centre vers la périphérie et qui fait apparaître la place des mondes, et le mot de l'etzamtsem en hébreu a ici son sens qu'on trouve surtout dans le Talmud, qu'il emploie dans ce sens-là. Non, pardon, je m'excuse, annuler cette phrase. A surtout le sens que nous avons dans les textes de la Kabbalah, alors que le deuxième sens est celui du Talmud, le sens de rétractation, c'est le premier, du centre vers la périphérie. Alors que dans l'emploi talmudique, c'est la deuxième sorte de Tzimtzum, contractation, dans le sens de diminution. Tandis que dans le premier sens, c'est faire vide, vacuité. Le résultat du premier Tzimtzum que nous sommes en train d'étudier, ce sera la direction indiquée par le texte du Bahir hier, Tohu, alors que le deuxième Tzimtzum de contractation, diminution de densité d'être, dans ce sens-là, contracté, alors que le premier s'est dilaté, qui permettra le Bohu. D'un côté Keli, de l'autre Or. D'un côté nature, de l'autre l'amour. Voilà grosso modo le schéma sur lequel nous aurons à réfléchir. Et je voudrais donc expliquer cet emploi de vocabulaire du point central. Et pour cela, je crois que, il me semble l'avoir signalé au séminaire d'il y a 4-5 ans, c'est que le vocabulaire le plus approprié à notre mentalité culturelle actuelle, et sur ce point en tout cas, évidemment, c'est le vocabulaire du Rav Ashlag, dont vous avez d'ailleurs le commentaire du Talmud, Reser Sfirot, en bas de page. Et c'est que il y a une double catégorisation de la notion d'être qui va apparaître, celle qui reste reliée à la notion de l'être antérieur qui devient sur ce point créateur, c'est l'être qui donne l'être. En hébreu, ça se dit « mashpia », déverser, influer, donner, les « ashpia ». Alors, l'être « mashpia », le mouvement est du centre vers la périphérie. Ce qui donne va du centre vers la périphérie. C'est ça, mais l'inverse, vous voyez, après là, ça cache pas. De la périphérie vers le centre. Alors que l'autre dimension d'être qui va se dévoiler dans le processus de la création, et qui est l'être qui reçoit l'être, c'est, elle le reçoit au centre, du centre vers la périphérie. Le centre, ça veut dire le côté réception de l'être. La périphérie, c'est le côté don de l'être. Shefar, c'est influx.
Shefar, ça vient de l'H.
C'est la même racine, oui. Les Hpia, Shefar.
Shefar, c'est l'abondance.
Ça peut aussi vouloir dire abondance.
On pourrait dire concentration et expansion.
Ça sera une des conséquences. Mais pour notre problème, je reprends avec un vocabulaire un peu différent, la Havaya, l'être absolu, c'est intimement, uniment, deux manières d'être à la fois qui, lorsqu'elles sont confondues, se disent simples. Pas de distinction entre ces deux manières-là. Donner l'être et recevoir l'être. La subsistance de l'être en lui-même est le résultat de deux mouvements dans l'être qui sont confondus et donc imperceptibles. L'être se donne et se reçoit, alors il est. Il se donne et se reçoit lui-même, alors il est. C'est ce qui fait sa force de présence. Et c'est ces deux dimensions qui sont distinguées en fin de compte entre l'être donnant l'être, l'être du Créateur, l'être recevant l'être, l'être de la créature. Lorsque le texte dit simple, ça veut dire le niveau où ces deux manières d'être, qui ensemble font l'absolu, sont indiscernables, sont inséparables, sont indiscernables, je crois que c'est le mot le plus clair pour notre fonction de connaissance, et alors ça se dit pashut, simple. On ne distingue pas entre l'un et l'autre. Nous verrons par la suite, il y a toute une dialectique infinie et très fine que celui qui donne reçoit en donnant par le fait de donner et que celui qui reçoit donne par le fait de recevoir, mais ça nous verrons plus tard pour ne pas trop mélanger ces notions. À la racine, c'est indiscernable, l'être absolument est à la fois le donnant l'être, recevant l'être de lui-même. C'est clair ? Et à la limite, et la catégorie, la distinction qui importe notre sujet, c'est la distinction créateur-créature. Être donnant l'être, dans le vocabulaire du Ramashlag, c'est Ratson et Ashpia, volonté de donner, vouloir donner. Et l'être recevant l'être, c'est Ratson et Kabel, vouloir recevoir, étant en recevant. Je crois que c'est effectivement le vocabulaire le plus approprié pour nous, pour comprendre de nouveau cette notion de créateur-créature. Et vous voyez que, comme d'habitude, d'emblée, c'est formulé en termes, en discours concernant le problème moral. C'est clair, je veux dire. Et par conséquent, je crois que le point qu'il fallait élucider est maintenant suffisamment clair. Voilà pourquoi ce processus du Tzimtzum part du centre, vraiment, de la Nekuda Emtzaït Mamash, comme dit le texte, parce que c'est l'être recevant l'être qui se vide de sa volonté de recevoir afin de donner. C'est clair ? Bien. Et donc, toutes ces notions se correspondent en fin de compte. Alors, je relis une dernière fois la phrase qui maintenant est, je l'espère, suffisamment simple, et vous comprendrez la difficulté dans les conférences générales d'exprimer ces notions-là sans faire appel à l'exégèse indispensable à laquelle il fallait faire appel, mais on va essayer quand même. Alors, da ki, sache que terem shenetzlu anetzali, avant que ne soient émanés les mondes émanés, venivrei ou anivrei, et que ne soient créés les mondes créés, haya or elyon pashut, la lumière supérieure simple, le niveau de l'être que nous nommons maintenant ainsi, a posteriori du Timsou, était même avec la Metzut, emplissant toute l'existence, et nous verrons que le niveau du monde qui s'appelle Atzilut, qui correspond à la valeur d'être Chorma, s'appelle aussi Metzut, l'existence. Dans le vocabulaire de la Kabbalah, à ce niveau-là, Chorma, Atzilut, on dit qu'il y a déjà Tzat Yesh, un peu de présence. Tzat Yesh, Tzat Yeshut. Le verset, je vous le donne en me référant à ceux qui sont au courant des versets, c'est « Ve'achochma me'ayin timatze ». Dans le verset, c'est une question, et la sagesse, d'où se trouve-t-elle ?« Ve'achochma me'ayin timatze ». Mais la Kabbalah va l'utiliser sous forme affirmative, « La chochma, le niveau chochma, vient timatze, existe, procède de, du haïn ». Le niveau précédent, par rapport au « satyesh », ça commence à exister, et sera appelé néant. C'est clair ? La chokma met à intimatse. La chokma vient du niveau supérieur qui s'appelle Aïm. La fin du verset continue par rapport au monde de Bina, Ve eze mekom Bina. Dans le verset, c'est encore la question, et où se trouve l'endroit de l'intelligence? Eze, où se trouve mekom, l'endroit de l'intelligence Bina, avec que Bina s'appelle Makom, Makom Panui. Mais la correspondance. Alors donc, cette lumière simple, emplie, mais malé, kolametsiut, tout le niveau de l'existence, velo ayashu makom panui, il n'y avait aucun endroit disponible, vide, makom, et on descend de monde en monde, beprinat avirekani, en sorte de atmosphère vide, mais halal et vide vraiment, et la réakol, mais tout était mémoulé, empli, min or ensof pashut ahu, de cette lumière qui vient de plus haut, du ensof, irradiation simple dont nous parlons. Vous voyez pourquoi le nom a changé, c'est clair. Avant le processus du Tzimtzum, ce niveau supérieur s'appelait, comme tout ce qui l'emplissait, lumière du ensof simple. Après le processus du Tzimtzum, cette lumière du ensof simple s'appellera Or Elyon Pashut, lumière supérieure simple. Parce qu'entre temps, il y a les inférieurs qui sont à nous. C'est clair ? Et il voit un peu. Et là, il y a Kol, Memoule, Minor Ensof Pashut, Aou. Avant d'aller plus loin, c'est le sens aussi du mot Zohar en hébreu. Zohar signifie l'irradiation de cette lumière dont nous parlons et qui est elle-même l'irradiation du Ensof plus gros. C'est clair ? Zohar est plus atténué que Or. Essayons d'imaginer qu'il y a un voile ou un écran et quelque chose qui cache la lumière vraiment à travers cet écran, ce voile, se laisse deviner un Zohar, c'est-à-dire une irradiation d'irradiation. Vous voyez la précaution du langage qui nous montre que tout ceci qui est très proche de nous, parce que notre âme est au contact direct de cela, quel que soit le niveau, est très loin du point de vue des catégories du temps et de l'espace qui sont propres à notre monde de Asiya au centre du Halal. C'est très, très loin, d'un certain point de vue, infiniment loin, mais tout proche. Et une fois, j'avais employé une image un peu poétique, ce voile à travers lequel le Zohar du Or se laisse deviner, est si ancien qu'il a des trous, et c'est peut-être ça l'origine des étoiles. Et effectivement, il y a beaucoup, c'est poétique, peut-être un peu plus, mais et il y a énormément de versets et de contextes chez les prophètes et dans les psaumes qui font allusion à cela, que la contemplation des étoiles fait comprendre beaucoup de choses. C'est où ma ombre, elle est verset d'Isaïe, levez les yeux en haut et regardez qui a créé ces choses-là. Ces petites ouvertures du voile non transparent. Bien. Je crois que beaucoup de philosophes de l'Antiquité, peut-être très proches encore du temps des mythes, ont parlé de cela. Je pense que je vous cite là Platon, il me semble, à travers un de ses commentateurs, que l'homme est devenu philosophe, dirait Platon, si c'est lui, parce que la station verticale lui a permis de regarder les étoiles. Je crois qu'il parlait des bergers à ce moment-là, que les bergers contemplant les étoiles ont découvert. Bien. Alors il y a un peu de cela, on affirme l'unité de Dieu le soir, que lorsqu'on commence à voir les étoiles, c'est quand même relié. Je continue donc. Velo Hayalo, et à cette lumière qui se laisse deviner de si loin, tout proche, et il n'y avait ni perspective de roche, tête, commencement, Velo Berinazzo, de fin, c'est-à-dire ces catégories-là, commencement, fin, n'ont aucune place à ce niveau-là, avant le Tzimtzum, et la Hakolaya. Mais tout était Orechad, une lumière, une. Pashut, simple, Shavé, Be, Ashva, Ahad, égal en égalité, une, Vehuanikra Horizon. Et c'est de lui qu'on parle lorsqu'on parle dans les textes de la lumière du Horizon. Voilà donc la lecture du premier cours qui a duré deux cours. Et le cours suivant, donc lundi, nous finirons ce texte du Ephraïm. Il y a d'autres précisions supplémentaires qui nous sont données dans le vocabulaire qui suit, qui reprend le même vocabulaire mais avec quelques nuances. Et ensuite, il nous restera deux cours, mardi et mercredi, je parle des cours du matin, pour étudier un texte du Rav Kook que vous avez dans votre dossier, qui s'appelle Kavayosher ve'Egulim, que j'introduirai déjà la prochaine fois, peut-être un petit peu aujourd'hui, et qui va poser le problème de fond de nature et morale, comment comprendre le monothéisme intégral, alors que nous sommes donnés à deux états du monde radicalement opposés et qui écartèlent l'homme, le conditionnement de la détermination des lois de la nature naturelle, et d'autre part l'aspiration aux valeurs morales, le monothéisme intégral de la tradition juive consistant à affirmer que, quelles que soient les apparences, un principe unique les unifie et les gouverne, ce qui permet l'optimisme de la foi. Toute autre foi dualiste ne peut être que tragique, parce qu'il y a, semble-t-il, incompatibilité irréductible et définitive entre notre monde en tant que nature et notre monde en tant que valeur. Voilà grosso modo le sujet, et nous verrons à quel point, jusqu'à où il semble bien que seule la tradition des prophètes d'Israël a connu ce principe d'unité, ce qui explique en particulier historiquement la fascination de l'humanité entière pour le fait Israël et ce qu'il a représenté dans l'histoire du monde. Fascination très complexe, puisque, comme vous le savez, elle est la source aussi de tous les conflits et rivalités auxquels nous sommes aux prises, avec lesquels nous sommes aux prises, je peux vous dire, en particulier depuis 1948 que la société hébraïque revient sur la scène du monde, et tout ce que vous comprenez par vous-même en organisant toutes les connaissances que vous pouvez avoir sur ces six rivalités qui sont sept et qui entourent l'identité d'Israël. Je vais vous les rappeler très rapidement avant de terminer ce matin. Oui. Alors, rappelez-moi une minute, ces six qui sont sept.
Sur les deux sortes de tzimtzum dont vous avez parlé, la dilatation et la contraction, si j'ai bien compris, vous avez dit ces deux manières d'être qui sont simultanées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas distinguer entre un premier tzimtzum et un deuxième.
On ne me semble pas avoir dit cela comme ça, en tout cas. Mais ça, nous allons l'aborder dans lundi ou mardi matin, lorsque nous verrons que le premier tzimtzum, faire vide, fait apparaître la nature, quelque chose est retiré de l'être qui le rend impersonnel. Et c'est ça la nature. Alors que le deuxième tzimtzum, diminution par contraction, fait apparaître la lumière qui, dans la nature, fait exister le monde de la nature et dévoile la morale. Ça, c'est le deuxième tzimtzum.
Alors, il y a donc quand même, on ne peut pas parler bien sûr de chronologie, mais il y a quand même
un ordre. Parce que ce que je veux dire là en trois points, si vous tenez malgré tout, vous dites. Le premier tzimtzum fait apparaître les sphirotes sphériques, qui sont l'ordre de l'impersonnel. Les sept inférieurs se brisent, ce qu'on appelle la sphirata kelim, nous verrons pourquoi. Alors la lumière, elle, qui traverse ces sphirotes sphériques et au bout de laquelle il y a un homme, chaque fois, elle va reconstituer, restaurer sous forme humaine, personnelle, la décombre de l'impersonnel. Pendant trois mots, toute la Kabbalah sur ce sujet. Une minute, je peux. Et c'est ce que j'ai appelé dans l'ordre des conférences la restauration des mondes, et j'ajouterai à travers la stature humaine et les valeurs de l'homme, la reconstruction de la personne. Ça englobe et ça fait allusion à énormément de traditions à la fois, mais centralement la tradition d'Israël qui les unifie. Donc il y a trois mouvements, en fin de compte simultanés, mais dans l'ordre logique, la nature et son chaos, et puis, ça fait déjà deux, la nature, son chaos, et l'effort de réorganisation, de restauration de ce chaos en homme. Vous comprenez tous les paganismes que cela peut impliquer, jusqu'à l'adoration de la forme humaine, mais pour le moment nous sommes au niveau du vocabulaire humain. Et alors, je reviens à cela. Pendant cette œuvre gigantesque, c'est les 6000 ans d'histoire, de reconstruction de cette valeur morale de l'homme qui accomplit la restauration des mondes. Différentes valeurs sont reconquises et disposées dans la perspective de l'unité, et à chaque étape, des rivalités apparaissent. Alors, je vais vous dire très très rapidement, si ça vous intéresse, on reprendra ça plus en détail dans un séminaire prochain, l'année prochaine, je vous dirai. Et Abraham va restaurer la première valeur, Isaac la deuxième, Jacob la troisième, Moïse la quatrième, Aaron la cinquième, Joseph, Pinchas la sixième et David la septième. Alors cette unité est accomplie, c'est le temps messianique. Et il s'agit de ces sept sphirotes inférieures que je vous ai énumérées, les six de Tiferet, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, et la septième, Malchut, avec deux étapes, les six entre elles. J'ai remarqué que j'ai réussi à ne pas dire les six entre elles, mais les six entre elles, unifiées avec la septième. Et nous sommes, semble-t-il, encore une fois, chronologiquement, métaphysiquement, mystiquement, à l'étape où la dernière étape de l'unité entre les six unifiés dans la sixième s'unifie avec la septième. On est peut-être assez avancé. C'est le problème Joseph-David que nous étudierons dans la perspective du messianisme. Et voilà ce qui se passe.